m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Vous les connaissez forcément, elles sont même dans notre inconscient, ces images colorées qui troublent le regard, excitent notre rétine, qui semblent parfois vibrantes ou clignotantes. Ce sont elles auxquelles on pense lorsque l'on entend le nom de Victor Vasarely, le créateur de l'art optique ou optico-cinétique. Mais comment ces images s'insèrent-elles dans l'œuvre de cet artiste qui a révolutionné l'abstraction géométrique et dont la créativité s'est insinuée jusque dans la vie quotidienne des années 70 en France, mais pas seulement. C'est ce que nous raconte la première grande rétrospective française consacrée à Vasarely. Elle nous est présentée en ce moment à Paris à travers 300 œuvres, objets, documents qui en montrent l'ensemble des facettes. Cette exposition Vasarely, le partage des formes, est à visiter au centre Georges Pompidou jusqu'au 6 mai et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Michel Gauthier.
Bonjour.
Bonjour Arnaud Pierre.
Bonjour.
Vous êtes les deux commissaires de cette exposition qui se tient donc, je le disais, au centre Pompidou. C'est pas très étonnant à cela parce que c'est surtout finalement pendant les années de la présidence pompidolienne que Vasarely a éclaté au grand jour aux yeux du monde entier, Michel Gauthier.
Oui, effectivement, c'est 69-74, ces années où le président Pompidou était en exercice, ou avant il était premier ministre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Pompidou était un amateur du travail de Vasarely. Par-delà Georges Pompidou, Vasarely, effectivement, est sans doute l'un des artistes qui exprime le mieux l'imaginaire qui fut celui de la France des Trente Glorieuses, de cette période de progrès sociaux, économiques et techniques. Et c'est d'une certaine façon sans doute pourquoi l'immense foule qui se presse dans l'exposition depuis son ouverture a un sentiment de bonheur et de joie, peut-être que cet art traduit ou fait qu'on se souvenir d'un moment où on croyait encore d'une certaine façon dans le progrès.
Il y a une forme de nostalgie, c'est comme ça que vous analysez effectivement la fréquentation de cette exposition, Arnaud Pierre, la nostalgie d'une France et d'un monde optimiste qui va bien, d'une France d'avant la crise de 73.
Je ne sais pas, mais vous avez parlé vous-même d'inconscient, d'images qui sont en fait dans notre inconscient. Et je crois qu'il y a en effet tout un refoulé optique qui ressurgit. Là, en réalité, on a un peu quand même dissimulé Vasarely pendant longtemps, c'est vrai. Hein. Il y a eu donc oui une mode, un succès de Vasarely.
Et ensuite, en retour de bâton.
Les modes, ça passe, et puis les modes, ça revient en fait aussi. Hein. Et là, ça revient effectivement sur le mode du retour du refoulé d'une certaine façon, d'où une certaine fébrilité d'ailleurs aussi hein, dans l'exposition et dans la presse qui se, je vais dire le monde qui se presse aux portes de l'exposition.
Mais alors, vous avez peut-être justement senti venir les choses. Pourquoi une exposition, et même pourquoi une rétrospective Vasarely, aujourd'hui ?
Écoutez, d'une part, aujourd'hui, ça aurait eu autant de sens il y a 2 ans. Je pense que cela ne pouvait plus durer aussi longtemps. Enfin, je l'oublie de Vasarely, une forme d'oubli que les institutions manifestaient à l'égard de Vasarely ne pouvait plus durer. C'était d'une part, vous l'avez dit, en termes d'histoire de l'art, l'artiste qui invente un courant tout à fait important et qui constitue une péripétie très très importante de l'histoire de l'abstraction géométrique, ce que les Américains vont appeler l'op art pour faire simple, mais Vasarely c'est plus que ça, on le voit bien, il n'y a pas que des spécialistes d'op art qui se pressent dans l'exposition. Vasarely c'est sans doute l'un des artistes qui a exprimé une époque. Il est très rare comme ça que les formes créées par un artiste entrent dans la culture populaire visuelle d'un moment. C'est le cas avec Vasarely, et en tant que tel c'est presque un phénomène autant culturel, esthétique que simplement artistique, et il fallait maintenant rendre compte de ce phénomène et permettre au public de le mesurer.
Alors c'était en 1930, on va commencer par un peu d'histoire parce que c'est une rétrospective et donc l'exposition suit évidemment le parcours de la vie de l'artiste. C'est en 1930 donc que le jeune Vasarely, qui a 24 ans à ce moment-là, s'installe à Paris. Il arrive de Budapest, hein, il faut le rappeler, Vasarely est hongrois d'origine, il a été naturalisé français en 61, mais il est né en Hongrie, à Pécs en 1906, et c'est en Hongrie, donc son pays natal, dans son pays natal, qu'il a découvert la peinture et qu'il s'est formé à l'art.
Oui, il s'est formé à l'art d'abord en Hongrie. Il est l'élève d'un artiste, alors là qu'on a vraiment oublié, oui, Sandor Bortnik, qui est un des grands artistes en fait constructivistes hein, de l'Europe centrale.
Donc dans le sillon du Bauhaus.
C'est ça, exactement dans le sillon du Bauhaus, puisqu'en fait il s'est formé non pas au Bauhaus, mais il était à Weimar, donc en Allemagne, au début des années 1920, à proximité du Bauhaus. Il avait un atelier dans la même ville, en même temps d'ailleurs que Theo van Doesburg, hein, le grand compagnon de Mondrian, l'inventeur du groupe de Stel, etc. C'est auprès de ce personnage hein, que Vasarely se forme, un personnage qui revient d'Allemagne donc avec les idéaux du Bauhaus, et il fonde dans un petit appartement de Budapest une école qui a l'ambition d'être une sorte de petit Bauhaus à la hongroise. Il va l'appeler le Muei, hein, l'atelier, et Vasarely est élève pendant 2 ans, où alors il apprend toutes sortes de choses. Il apprend, oui, un style, un vocabulaire certainement, qui vient comme ça de ces avant-gardes constructivistes, mais il apprend, il entre aussi en fait dans une idéologie, dans une conception de l'art qui fait de l'art quelque chose qui à un moment ou à un autre doit rencontrer la vie en fait. Hein. Bortnik disait à ses étudiants qu'au fond, avant de faire artiste, il faut manger, hein, donc il faut apprendre un métier. Ce métier, ce sera celui donc de graphiste publicitaire, et c'est ce qui forme Vasarely en effet à la forme efficace, à quelque chose qui à une recherche, si vous voulez, qui produit de premières formes, de premières structures, de premiers jeux visuels, qui sont vraiment le socle du vocabulaire du Vasarely plus tardif, celui que l'on connaît quoi, de l'après-guerre.
Alors il y a l'avant-garde, il y a aussi une certaine forme d'histoire de l'art. On va écouter justement Vasarely parler de sa découverte de la peinture et de ceux qu'il appelle lui-même ses maîtres, extrait d'un entretien télévisé de 1973.
Tout jeune garçon, bien entendu, j'aimais pêle-mêle les peintres de la Renaissance, les néoclassiques, bien entendu, les impressionnistes. Et puis j'ai déclaré une fois pour toujours, mes maîtres sont Cézanne d'abord, avant tout. Ensuite, plus tard, Mondrian, le Hollandais, Malevitch, le Russe, Fernand Léger, en tant que peintre cubiste, abstractisant. Pendant une toute courte période, j'admirais Picasso. Après, je me suis détourné de lui. Et c'est plutôt vers Matisse, vers ses collages, n'est-ce pas, que je me suis tourné à un moment donné, quand j'étais encore artiste à la manière, si vous voulez, ancienne du terme, de la terminologie. Alors donc, mes maîtres, je les ai énumérés. Et puis, ce que j'ai fait depuis a intéressé une nouvelle génération. Et puis, ma foi, la vie des arts continue d'une manière renouvelée.
Alors, ça mérite quelques développements. Tout d'abord, Arnaud-Pierre, la filiation de Cézanne et du cubisme, on la retrouve dans les œuvres de Vasarely?
Oui, alors le rapport à l'histoire, oui, c'est intéressant chez Vasarely. Il cite quand même beaucoup de choses, là. Il énumère beaucoup de noms. Cézanne, vous savez que il y a une phrase de Cézanne inscrite sur la pierre de fondation de du centre architectonique d'Aix-en-Provence. Hein. Nous serons fidèles à l'héritage de Cézanne. Hein. Donc, évidemment, c'est très important. Le plus surprenant, là, est le nom peut-être de Picasso, mais après tout, il peut se comprendre, effectivement.
Période très fugace, précisément.
Oui, puis quand Vasarely arrive à Paris, effectivement, il le dit lui-même, on ne parle que de Picasso. On ne connaît absolument pas ce dans quoi lui s'est formé, justement, hein, cette tradition abstraite, constructiviste, etc. Et au fond, la première abstraction de Vasarely, c'est une abstraction, en effet, post-cubiste, d'une part, biomorphique, d'autre part, c'est-à-dire, c'est une abstraction qui prolonge, en fait, des courants qui se trouvaient déjà là dans l'entre-deux-guerres et qui forment le socle de ce qu'on pourrait appeler une seconde école de Paris hein, qui se crée après 45. Et Vasarely en serait-il resté à ce stade de son développement? Il serait certainement resté un artiste, oui, intéressant, un peu au-dessus de Polyakov hein, ou de gens comme ça, à proximité de Magnelli, que sais-je. Mais en fait, au milieu des années 50, il se rappelle quand même d'où il vient. Hein. Et on a dans l'exposition un tableau très intéressant qui est un hommage à Malevitch. Il y en a plusieurs versions au milieu des années 50. Et c'est un tableau qui repart donc de l'absolu du suprématisme de Malevitch, c'est-à-dire le carré noir, le carré blanc. Et ces formes fondamentales, Vasarely les fait tourner sur elles-mêmes. Et donc, ces carrés deviennent en fait des losanges parce qu'ils entrent dans l'espace et dans le temps, comme des cercles deviennent ellipses parce qu'ils entrent eux aussi dans l'espace et dans le temps. Et c'est le début de la grande géométrie transformiste en fait de Vasarely, celle qui va l'entraîner dans l'art optique et cinétique.
Alors justement, le dernier mot du court extrait d'entretien qu'on vient d'entendre, Michel Gauthier, c'était le mot renouveler. Et ça, je pense que c'est un mot effectivement important dans la façon dont Vasarely a conçu son travail. Pour lui, l'art doit évoluer en permanence avec le temps qui passe. Il doit donc en permanence s'inscrire dans son temps.
Absolument, tout à fait. Et de ce point de vue, Vasarely a effectivement renouvelé l'art. De mon point de vue, du point de vue de l'exposition, Vasarely est attaché à deux révolutions fondamentales de la peinture et de l'art plus généralement. D'une part, la révolution optique, hein, c'est quelqu'un qui remet en cause une forme d'inertie qui était celle, selon lui, de la peinture abstraite qui l'avait précédée. Il faut que le corps tout entier, le corps engagé dans l'espace et dans le temps, comme le disait d'une autre façon Arnaud Pierre, participe de l'expérience qui est celle du tableau. Vous avez à vous déplacer devant un tableau pour faire bouger les formes. Vous avez aussi, si vous le regardez, à telle seconde, vous ne verrez pas exactement ce que vous voyez deux ou trois secondes après. L'image n'est pas stable et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Hein. Vasarely est, on le dit souvent, le père ou le pape de l'op art. Ça, c'est sans doute la première, enfin l'une des grandes nouveautés auxquelles, en termes d'histoire de l'art, le nom de Vasarely est associé. L'autre grande nouveauté, c'est d'avoir essayé de produire un art totalement laïque, totalement séculier, totalement non religieux, hein, un art, on peut dire aussi un art socialisé, un art démocratique. On voit que beaucoup de personnes ont du mal d'ailleurs à admettre la révolution vasarélienne de ce point de vue. Un artiste qui vous dit, s'il y a du Vasarely sur des kilomètres de torchons, ça ne me gêne pas. Oui. Il rompt là avec quelque chose qui, avec une certaine conception de l'art qui était bien ancrée.
Justement, est-ce qu'on peut dire que l'art de Vasarely s'est mis très tôt au service de la société de consommation, puisqu'il a commencé, on le disait tout à l'heure, comme graphiste publicitaire, donc ça veut dire que l'art peut être utile, utilisé à des fins notamment pécuniaires ou commerciales. L'art doit être efficace économiquement parlant.
Alors oui, enfin l'art, en tout cas les formes, hein, sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire de parler d'art. Dans un premier temps, Vasarely certainement eu très tôt en ligne de mire le fait de devenir un artiste reconnu en tant que tel, ou un plasticien plutôt à vrai dire, hein, parce que dans ce grand processus de désacralisation dont parlait Michel Gauthier à l'instant, il y a aussi cela, le refus de la posture de l'artiste traditionnel, du grand génie, etc., et puis du tableau comme incarnation, justement, de cette inspiration forcément géniale. Ce qui l'aide à forger cette conception, c'est qu'effectivement, lui connaît un autre usage possible des formes, et cet usage, c'est celui de la forme efficace dans le cadre de la publicité. Quand vous parler, oui, d'un art au service aussi de la société de consommation, vous pensez certainement au développement, justement, de la société de consommation dans les années 60, 70.
Oui, tout à fait, dans la période historique qu'on a évoquée au début de l'émission.
Et Vasarely, effectivement, oui, a peut-être voulu faire de l'art, d'une certaine manière, un produit de consommation, en tout cas, quelque chose qui échappait, justement, au circuit d'échange extrêmement restreint qui passait de l'artiste au collectionneur, par la galerie, et pour finir par dans le meilleur des cas, par déboucher dans le musée. Non, lui, effectivement, a cherché à ce que l'œuvre, par le biais du multiple, hein, on est dans les années 60, c'est la grande utopie de l'art multipliable, hein, que l'art devienne, prenne ce pas de l'objet multiple, devienne une sérigraphie, un objet quelconque, enfin, quelque chose qui, en tout cas, pourra rentrer dans un bien plus grand nombre de foyers que l'œuvre unique et originale.
Et en ce sens, on peut le rapprocher d'un Warhol, par exemple ?
Je voudrais, si vous me permettez,
alors, Michel Gauthier,
rajouter quelque chose et je réponds tout de suite ensuite à votre... Vasarely, son but, Arnaud Pierre l'a dit, c'est un héritier du Baos, son but était au fond de trouver des formes d'art qui soient diffusables dans la société, de remettre quelque chose, de remettre en cause le partage entre l'art et la vie. Ça, il a eu à accomplir ce projet dans la société qui était celle qu'elle était. Sans doute ne correspondait-elle pas aux idéaux qui étaient les siens. Vous savez qu'il y a la carte du Parti communiste en poche, Vasarely, mais il a conduit le projet du Baos dans la société des années 60-70 qui était structurée comme elle était. Alors s'agissant de Warhol, oui, vous avez raison, sans doute on peut rapprocher Vasarely de Warhol dans la mesure où, vous l'avez peut-être vu, nous avons sans vergogne intitulé une des sections de notre exposition Pop Abstraction.
Ben oui.
Vasarely, au fond, c'est l'artiste avec lequel on se rend compte qu'il y a peut-être la possibilité qu'une abstraction pop existe, que le pop art n'est pas simplement limité au recyclage des images et des icônes de la société de consommation. Donc de ce point de vue-là, il y a un lien sans doute avec Warhol. En revanche, il y a sans doute une différence assez fondamentale, c'est que Warhol était un artiste qui se servait des images et des produits, la bouteille de Coca-Cola, Marilyn Monroe, produit par la culture populaire de son temps, pour les élever, les faire accéder au grand art, celui des musées, tandis que d'une certaine façon, Vasarely accomplit le chemin inverse. Il se sert de l'abstraction la plus pure, ce qui est a priori le plus éloigné de la culture populaire, hein, l'abstraction que lui ont légué les avant-gardes modernistes, russes et autres, et ce sont ces formes-là qu'il réussit à faire descendre et à diffuser dans toute la société.
Note de la musique cinétique de Pierre Bastien dans VMDN sur RFI, dans cette émission consacrée à Vasarely, le partage des formes, exposition à visiter jusqu'au 6 mai au centre Georges Pompidou à Paris. Les deux commissaires Arnaud Pierre et Michel Gauthier sont avec nous aujourd'hui. Alors justement, l'art cinétique, la cinétique du grec kinetikos, qui se meut, qui se met en mouvement. On en a déjà les prémices chez Vasarely dans les années 30 avec la série des zèbres. Arnaud Pierre, ce travail sur le noir et blanc, on peut dire que c'est la première œuvre d'art optique.
Écoutez, il y a quand même pas mal d'expériences hein, dans l'entre-deux-guerres qui vont vers le dynamisme du plan, comme cela, en jouant notamment sur les jeux du positif, du négatif, du noir et du blanc. C'est aussi un des effets, vous savez, tout simplement de la facilité de reproduction de ce type de motif, en fait. Les revues d'avant-garde qui pullulent dans l'entre-deux-guerres et qui n'ont pas beaucoup de moyens reproduisent les tableaux abstraits des artistes qu'elle veut montrer sous forme de linogravures ou de gravures sur bois qui ont cet aspect justement donc d'une géométrie noire-blanche un petit peu vibrante. On en montre également hein, des exemples, dont certains d'ailleurs de Sandor Bortnik, du propre maître de Vasarely. Donc ça vient de là aussi en fait, hein, et Vasarely au fond adapte ces procédés-là à un registre d'image figurative en fait chez lui, donc les fameux zèbres, en effet, hein, dans les années 30, avant de retrouver le fil de son abstraction des années plus tard.
Mais est-ce qu'on peut dire que Vasarely, c'est un artiste de l'illusion ? Est-ce qu'il joue justement avec la capacité qu'a un œil de transcender finalement la réalité d'une certaine façon ?
Bien sûr, oui, il joue de l'illusion certainement, et puis c'est quelqu'un qui est fasciné et qui valorise beaucoup l'illusion, mais comme vous savez que comme les maniéristes par exemple l'ont valorisé, l'illusionnisme chez lui c'est celui des perspectives dépravées, vous voyez, comme les appelait le grand spécialiste du maniérisme qui était Jurgis Baltrusaitis, et Vasarely, et par rapport au moment classique de l'abstraction, Mondrian par exemple, hein, qu'il citait lui-même tout à l'heure, il est une espèce de maniériste, en effet, quelqu'un qui fait vaciller la géométrie classique sur ses bases pour l'entraîner du côté de l'instabilité et du mouvement, voilà, comme Pontormo l'a fait avec le langage classique d'un Raphaël, quoi.
Et pourtant, Michel Gautier, il va aussi s'intéresser et partir même du réel, par exemple. Donc, il va aller en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer, ça se passe pendant l'été 47, il va s'intéresser aux plages, aux galets du bord de mer, aux coquillages, au rythme des vagues, le flux et le reflux de l'eau. Que va-t-il faire de cette observation ? On parlait de l'œil tout à l'heure.
Alors effectivement, vous le dites, et Vasarely découvre les rivages bretons à Belle-Île en 47, et là il est tout de suite frappé par les grands rythmes qui animent la vie et le monde, le vent, la mer, le soleil qui se lève, qui se couche. L'année d'après, il découvre à Gordes en Provence un village écrasé sous la lumière du midi, avec où il commence, et c'est là qu'il commence à faire l'épreuve de la relativité des perceptions. Vous avez raison d'évoquer ce moment-là après avoir parlé d'illusion, parce que ces deux moments-là éclairent sans doute de façon très intéressante la place qui a l'illusion. Vasarely n'est assurément pas un artiste qui provoque des illusions pour elle-même. Enfin, je veux dire, il a d'une part un programme optique, il essaye de dynamiser l'œil, il essaye de faire que la perception devienne consciente d'elle-même, il essaye de faire comprendre que l'œil, il est rattaché à un système nerveux, à un corps, à un cerveau, et surtout, mais là, Arnaud Pierre est peut-être mieux placé que moi également pour en parler, l'intérêt qu'il a pour le mouvement, pour l'illusion, pour Arnaud Pierre parlait de transformisme, c'est qu'il a la conviction que le mouvement, c'est pratiquement la dernière instance de à la fois du cœur de la matière et de l'univers.
Mais comment est-ce qu'il le traduit concrètement ? Comment est-ce qu'il passe des galets de Belle-Île ou bien des paysages du Luberon à ses œuvres, Arnaud Pierre ?
Il y a quelque chose en effet, là, pour aller vraiment dans le fil de ce que vient de dire Michel Gautier, qui est très très juste, il y a quelque chose de quasi iconographique encore parfois dans l'abstraction de Vasarely, qui n'est abstraite que par un degré un différent d'accommodation avec le monde, en fait. Hein. Donc l'échelle, disons, ordinaire du monde ne l'intéresse pas, hein, c'est clair. En revanche, rentrer dans la matière, aller dans la microstructure, observer les macrostructures de l'univers, ça, oui, ça l'intéresse. Et donc, effectivement, chez lui, on n'est pas seulement confronté à des formes ou à des illusions d'optique, etc. Il ne faudrait pas le réduire à cela. Et on est confronté également à des forces, hein, ces fameuses forces universelles, hein, dont parlait un instant Michel, et qu'il traduit parfois de manière mais très littérale d'une certaine façon. Vous avez par exemple dans l'exposition un tableau qui s'appelle Supernova. C'est une grille comme ça, une trame très abstraite. Il y a pas plus abstrait d'une certaine façon. C'est noir et blanc. Ça renvoie, ça dégage une énergie visuelle folle. Et une supernova, qu'est-ce que c'est ? C'est une étoile comme ça qui respire en quelque sorte, hein, qui se dilate, qui se contracte. Et vous avez justement dans la partie supérieure du tableau le module de la grille qui se dilate, qui se contracte, donc qui devient noir, qui est plus sombre, plus blanc au contraire. Et puis tout dégage une énergie comme cela qui veut être visuellement l'équivalent des rayons gamma, des rayons bêta qu'émettent les supernovas, c'est-à-dire les plus hautes énergies de l'univers en fait. Hein. Et donc la vibration du tableau noir et blanc veut vous plonger, vous immerger dans cette vibration universelle.
Alors il y a donc la cinétique, on le disait, et puis il y a aussi la cybernétique, et les deux vont se rejoindre, cybernétique haute. Autre mot d'origine grecque dont un jeune scientifique de l'époque promit un brillant avenir de vulgarisateur, un certain Albert Ducrot, donnait la définition à la télévision, archive de 1958.
Le mot cybernétique vient du verbe grec kubernan, qui veut dire gouverner. Et si je pouvais vous définir la cybernétique de façon simple, je dirais tout simplement, c'est la science qui consiste à gouverner, mais ce terme n'étant pas pris dans le sens politique. Gouverner, en effet, a un sens beaucoup plus général. On gouverne une voiture, on gouverne un bateau quand on le pilote, par exemple. On gouverne une machine quand on la conduit judicieusement. On se gouverne soi-même, n'est-ce pas ? Gouverner, c'est faire en sorte qu'un système, au lieu d'être abandonné à lui-même, soit justement orienté vers un but. Et l'intérêt, c'est de considérer que maintenant, on sait faire des machines qui sont capables elles-mêmes de se gouverner. Si j'ose dire autrefois, une machine, c'était simplement un instrument où vous aviez mis de l'énergie et qui agissait de façon aveugle. Les machines modernes, au contraire, elles peuvent être dotées d'organes d'essence, elles peuvent recueillir des informations, corriger leur action, bref, elles peuvent se gouverner. Et c'est pour ça que la science qui étudie les dispositifs permettant telles actions, on lui donne le nom de cybernétique. Le mot lui-même, d'ailleurs, je vous disais qu'il vient du grec, il n'est pas nouveau en lui-même. Platon l'employait, par exemple. Lorsque vous lisez Gorgias, lorsque vous lisez le Politique, vous trouvez à plusieurs reprises le mot « cubernétique » pour désigner l'art de gouverner. Autrement dit, nous avons transposé à des techniques nouvelles une idée excessivement profonde, excessivement ancienne, tout simplement.
Voilà, tout simplement, hein, comme l'a dit effectivement Albert Ducrot. Alors, on pense déjà à ce moment-là...
Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, hein,
c'est
Ducrot,
vrai.
Mais bien sûr.
Voilà, donc effectivement...
Grand personnage.
Voilà, très grand monsieur, effectivement. Mais alors, justement, on pense déjà en 1958 à la programmation informatique, parce que quand on pense cybernétique, quand on pense système binaire 0-1, ça nous ramène justement au noir et blanc aussi, en opinion.
Voilà, oui, système binaire, noir-blanc, oui-non.
Positif, effet, négatif.
Dès le milieu des années 50, Vasarely fait le rapprochement avec la cybernétique et effectivement met au point un art qu'il prétend programmable, hein, au seuil des années 1960, qui consiste donc en une suite, en un alphabet plastique, comme il l'appelle, qui est composé de formes simples incrustées dans des carrés, chacun ayant une couleur différente. Donc vous avez au départ simplement 6 couleurs, 6 formes. Tout ça donc peut permuter, tout ça peut être régi par une espèce de combinatoire qu'il imagine pouvoir confier à des supercalculateurs, à des cerveaux électroniques, comme on disait à l'époque. Et il pensait même pouvoir s'allier finalement avec ce que l'on appelait l'imagination artificielle.
Mais est-ce qu'il les a utilisées justement ces machines-là ?
Non, ces œuvres ont vraiment l'aspect.
Parce qu'on se pose la question quand on
oui,
visite l'exposition,
oui,
on se dit
que
ça n'a pas été fait par un homme, ça a été fait par un ordinateur, une intelligence artificielle.
Eh ben non, ça a été fait par un homme, mais qui avait un raisonnement en effet d'ordinateur et qui calquait ses processus de création sur ceux de l'imagination artificielle.
Mais donc la technique n'était pas un outil pour lui, mais une référence.
Alors il a cherché en faire un outil, hein, puisqu'il tente de travailler avec IBM entre 68 et 69, enfin même il travaille avec IBM assez longuement sur la mise au point justement de la machine qui sera capable de mouliner comme cela toutes ces composantes du vocabulaire vasarélien pour produire des tableaux à la chaîne que l'on verra en plus visualiser sur un écran lumineux et IBM jette le gant, mais non pas parce qu'ils ne peuvent pas faire la chose, mais parce qu'elle leur coûterait trop cher et que la machine serait trop vite obsolète, hein, mais ils voulaient le faire, et ça montre bien le degré d'ambition aussi de Vasarely de ce côté-là.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Arnaud Pierre et Michel Gauthier, les deux commissaires de l'exposition Vasarely, le partage des formes actuellement et jusqu'au 6 mai à Paris au centre Georges Pompidou est l'un des moments forts du parcours que vous proposez aux visiteurs, c'est quand vous leur présentez ce que vous appelez l'espéranto visuel, hein, ce fameux alphabet plastique mis au point par Vasarely. L'idée c'est quoi, Michel Gauthier ? C'est d'inventer un nouveau langage, un langage compréhensible sur toute la planète ?
Oui, c'est un peu ça. Ça
apparaît ça
comme
un peu comme une utopie.
Une utopie. En fait, il faut quand même resituer ça dans l'histoire des abstractions. Il y a tout un récit qui préside à la naissance de l'abstraction qui va de ce côté-là, hein, l'abstraction étant entendue comme la définition d'une forme de langage visuel universel qui échapperait d'une certaine façon à la viscosité des langues, hein, au fait qui échapperait aux nécessités de traduction. Et de ce point de vue-là, Vasarely s'inscrit dans cette tendance qui illustre par exemple l'un des artistes qu'il admirait le plus, qui est
poète Auguste Herbin. Oui, alors Vasarely a une conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, hein, a une conscience de ce que la culture, les échanges sont en train de s'internationaliser et qu'il faut à cette internationalisation-là ben, un langage propre, spécifique, qu'il entend d'ailleurs non pas sous la forme de quelque chose qui pourrait apparaître à nos yeux comme comme une forme d'impérialisme occidental, mais il évoque le concept de folklore planétaire, c'est-à-dire qu'il envisage un alphabet non pas qui s'impose à tous, mais un alphabet qui puisse être utilisable par tous et qui puisse correspondre d'une certaine façon à différentes cultures et à différents savoirs.
Mais alors, qui dit alphabet dit lettre, donc l'unité, hein, en quelque sorte, la cellule unitaire de l'alphabet. C'est quoi pour Vasarely, cette cellule, cette unité?
Oui, donc il s'agit évidemment pas donc d'un langage vocalisable, hein, donc il n'y a pas
bien langage graphique
de lettres. Le morphème fondamental, hein, c'est ce qu'il appelle l'unité plastique, donc voilà, une forme simple incrustée dans un carré, simplement. Et puis on juxtapose ces carrés et on a, oui, ces sortes de phrases visuelles, si vous voulez, qui communiquent des idées de forme, de couleur, des émotions liées en fait aux formes et aux couleurs, hein, c'est cela. Et ce langage universel, il est ancré aussi dans l'universalité des émotions, hein, pour Vasarely.
Mais il l'a écrit très clairement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un code très précis, couleur correspond à telle idée comment ça se passe?
Non, il ne l'a pas formalisé à ce point, à vrai dire. Mais on voit bien d'où ça sort. Ça sort effectivement de toute une tradition que Michel Gauthier a rappelée, qui vient des débuts de l'abstraction et même plus loin encore, de ce moment où, au XIXe siècle, se met en place une esthétique scientifique qui effectivement établit des corrélations alors très précise entre certains types de stimuli esthétiques et certains types d'émotions. Hein, donc au fond, l'abstraction est aussi héritière de cela et tire l'idée qu'elle puisse être universelle, se vit de cette manière-là comme langue universelle, parce que voilà, il y a ce substrat, si vous voulez, scientifique, qui lui dit qu'au fond, les émotions qu'elle suscite sont elles-mêmes universelles.
Alors par exemple, là, vous avez sous les yeux le catalogue de l'exposition, l'affiche de l'exposition. Est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire et nous dire, à travers justement son langage, quel message Vasarely nous permet-il de percevoir, Michel Gauthier?
Alors, c'est un tableau qui s'intitule Arni, et c'est un tableau, d'une part, il faut le préciser, j'ai dit tableau et non pas peinture, parce qu'à proprement parler, il ne s'agit pas de peinture, il s'agit de papiers sérigraphiés qui ont été collés les uns sur les autres. Il y a des carrés, il y a des papiers carrés, puis des papiers ronds ou bien d'un carré, mais de taille inférieure au précédent.
Et ils ont l'air ordonnés, hein.
Très 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 ordonné. C'est au fond une peinture pixelisée. On est face à des unités minimales d'informations chromatiques et formelles. Et le tableau, grâce à ses formes et à ses couleurs bleues, rouges, vertes, violettes, va proposer au gré d'un dégradé qui semble avoir été réglé par la machine, hein, et dont Vasarely aurait aimé qu'il soit réglé par la machine, mais va proposer des effets d'assombrissement, des effets de flou, hein, qui sont attachés à quelques émotions fondamentales. C'est un tableau, quand on le regarde, on a envie de faire un pas en avant, deux pas de côté, trois pas en arrière, parce qu'à chaque fois, les effets divergent et les émotions associées à ces effets également.
Mais chaque visiteur va pas forcément ressentir la même émotion. Est-ce que ça, c'est pas finalement l'une des limites du langage de Vasarely, Arne-Pierre? Parce que le langage, normalement, c'est pour communiquer, donc pour pouvoir après interagir. Là, on a un peu l'impression d'un langage dont la perception est par nature protéiforme.
Oui, parce que bien sûr, comme c'est un langage d'émotion, bon, les émotions, par définition, ce sont pas toujours ce qu'on maîtrise le mieux, mais tant mieux, hein, c'est ce qu'il souhaitait. Et quand il demandait, au fond, à chacun de s'emparer de son langage pour former ce folklore planétaire, comme il l'appelait, c'est bien aussi à ça qu'il faisait référence. Il souhaitait que chacun en fasse ce qu'il souhaitait en faire en fonction, voilà, de ses propres émotions, mais aussi de ses propres traditions culturelles, de ses propres idiosyncrasies culturelles, si vous voulez. Mais c'est important, le mot de folklore là-dedans, parce qu'effectivement, il y a tout un côté aussi décoratif associé à l'idée de folklore. Et le folklore, le décoratif, c'est l'art universel. universel par excellence. Les motifs de Vasarely, si vous voulez, en fait, on les trouve dès l'Antiquité dans les mosaïques cosmatesques de l'Italie médiévale, dans les éliges marocains, on les trouve voilà dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de cultures, à des époques très très différentes et très éloignées les unes des autres.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you.
Space Oddity, David Bowie en 1969, un disque que l'on retrouve dans cette exposition Vasarely au Centre Pompidou. Et Michel Gauthier, vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, oui, c'est une belle histoire d'une certaine façon. Lorsque Bowie enregistre son second album, qui ne s'appelle pas tout de suite d'ailleurs Space Oddity, qui s'appelle déjà David Bowie tout simplement, se pose bien évidemment la question de savoir comment illustrer la pochette du disque et on propose à ce moment-là à Bowie d'utiliser une forme, une sérigraphie de Vasarely, et nous avons retrouvé en préparant cette exposition Vernon Dewhurst, qui est un photographe, essentiellement un photographe de mode, mais qui est donc le photographe qui a utilisé l'image de Vasarely et l'a montée avec un portrait du chanteur, compte tenu de l'univers qui était celui de Bowie, de son goût pour la science-fiction, et il avait semblé assez naturel au producteur du disque et aux gens qui étaient autour de lui d'utiliser une image de Vasarely qui entrait assez tout à fait en harmonie avec cet univers. Alors, à l'époque, les deux hommes ne se rencontre pas en 68. Vasarely, sans doute, est-il heureux, mais il laissait très largement utiliser les formes qu'il produisait. Mais les deux hommes se rencontreront quelques années plus tard, en 77, à l'occasion d'une tournée de Bowie. On demande à Bowie, qui a un peu de temps libre, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et Bowie dit rencontrer Vasarely. Et il va le voir dans son atelier d'Annay-sur-Marne. Et la rencontre est documentée par une série de photographies qui fleurent bon les années 70, quand on voit la tenue qui est celle de Bowie, et sans doute les deux hommes communieront-ils dans un même goût pour la science-fiction et l'espace.
Alors c'est une belle histoire effectivement, mais au-delà de la rencontre humaine entre les deux, au-delà de la rencontre artistique aussi, là on se dit quand même, Arnaud Pierre, qu'on est dans une formidable stratégie pop, de stratégie de popularisation finalement de cet alphabet inventé par Vasarely, parce qu'il est partout à ce moment-là, dans les années 69, 72, 73.
Oui.
On voit du Vasarely partout, à la télévision, sur les unes des magazines, sur les services à thé ou à café, au cinéma aussi.
Oui, il y a une énorme porosité avec la culture populaire, le monde du pop, avec le pop effectivement. Il y a également le chanteur Antoine qui est fréquemment à Annay-sur-Marne.
Autre style que David
voilà,
Bowie.
Oui. Michel Polnareff interviewe Vasarely pour une émission de variété Quatre Temps, présentée par Michel Drucker déjà. En 1968. Et les plateaux de Michel Drucker, mais comme ceux d'autres émissions vers la même époque, sont effectivement des Vasarely, ou en fait inspirés de Vasarely, dérivant de Vasarely. Et on voit aussi bien Gilbert Bécaud dans un clip de Jean-Christophe Averty, que Charles Trenet ou Gérard Manset, hein, chanté comme cela dans ce cadre complètement vasarélien. Mais Vasarely est lui-même aussi une sorte d'icône aussi de la culture populaire en tant que personnage. C'est un type qui passe bien à la télévision, qui sait s'exprimer, c'est une figure médiatique elle-même et que les gens reconnaissent.
Alors Vasarely veut donc faire de son art un art populaire, un art social. Il va investir le cinéma. Il y a d'ailleurs dans l'exposition un écran où on voit des extraits de films. Erotissimo de Gérard Pires, Peur sur la ville de Verneuil, La prisonnière de Clouseau, qui m'a vraiment donné envie de voir le film dans sa totalité, où on voit comme ça en permanence les Demoiselles de Rochefort aussi d'ailleurs. On voit effectivement les acteurs passer devant des œuvres de Vasarely qui sont plus ou moins mises en scène dans l'histoire.
Faites d'après
Vasarely aussi. Précision importante. Cas, ouais. Et puis il y a aussi l'architecture. Hein. Il y a, c'est ce que vous appelez, je crois, l'inscription architecturale, c'est ça?
Les intégrations.
Voilà, merci. Architecturale. Alors il y a la façade de la radio RTL, hein, rue Bayard, qui a été démontée récemment puisque la radio a déménagé. Et puis il y a ce centre architectonique d'Aix-en-Provence qui abrite aujourd'hui encore la fondation Vasarely. Est-ce qu'on peut dire que c'est une préfiguration, ce bâtiment-là, de cette fameuse cité polychrome de rêve que Vasarely voyait dans ses rêves, justement?
Oui, d'une certaine façon. Dans les années 70, Vasarely produit de nombreuses études liées à ce projet, de projet de décoration de grands ensembles, mais également de maisons individuelles, avec l'idée qu'au fond, le geste par excellence politique que peut accomplir un artiste et de décorer la ville, et donc de décorer, d'embellir la vie. Alors le centre architectonique d'Aix-en-Provence, hein, plus connu maintenant sous le nom de Fondation Vasarely, qu'on peut voir depuis l'autoroute, incarne sans doute, oui, la grande concrétisation de cet idéal-là. Vasarely le fait avec sans doute deux perspectives. D'une part, de montrer aux architectes comment son vocabulaire peut être utilisé au niveau architectural, et il montre aussi grâce à ces énormes monumentales intégrations architecturales qui habitent les alvéoles hexagonales du bâtiment, quel est le destin qu'il souhaite pour ses œuvres, bien au-delà du tableau de chevalet, de la toile sur les cimaises des galeries ou des musées. Il souhaite que son œuvre s'intègre à la ville, s'intègre à l'architecture. C'est qu'au fond, si vous voulez, il y a plusieurs grandes stratégies pour la socialisation de l'art de Vasarely. Le design, hein, il dessine par exemple le nouveau logo de la Régie Renault
en 72.
Il y a aussi les multiples, hein, ces posters qui sont à tirage illimité, mais il y a aussi l'architecture, hein, et là aussi il est un héritier du Bauhaus, hein, parce que le but suprême au fond de l'artiste du Bauhaus, c'est de produire des œuvres intégrées à l'architecture.
Et donc la boucle est bouclée en quelque sorte. Dernière question, Arnaud Pierre, l'inscription dans l'histoire de l'art, justement, quelle est la postérité de Vasarely aujourd'hui? C'est une parenthèse dans l'art moderne, où il a fait des petits?
Oula, le sujet est vaste. Alors, il y a une postérité immédiate, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dès 55, apparaît en effet comme une espèce de chef d'école, hein, de l'art optique et cinétique, qui y a eu déjà des expériences, hein, au XXe siècle de cette nature-là, mais voilà, la tendance cristallise, devient un mouvement grâce à lui. C'est lui qui rassemble une première génération d'art d'artistes, de gens qui ont 20 ans de moins que lui, en fait, hein, Léa Gam, Soto, Tinguely, Bury, etc. Et puis, à sa suite, il y a encore une autre génération d'artistes qui, dans les années 60, vont propager toute cette abstraction en noir et blanc, très vibrante, à la fois optique et cinétique. Cinétique parce que stimulé, parce que le regard est stimulé. Là, il y a une énorme diffusion, en fait, hein, de Vasarely à ce moment-là. Et puis après, pour la période plus récente, là, il faudrait regarder les choses très très finement, mais il y a quantité d'exemples d'un retour de Vasarely par les artistes, en fait, hein, qui, à partir de la fin des années 90, se mettent à revisiter ce langage.
Merci beaucoup à tous les deux, Michel Gauthier, Arnaud Pierre, l'exposition Vasarely, le partage des formes au Centre Pompidou jusqu'au 6 mai.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Vous connaissez sans doute le théâtre d'improvisation, mais connaissez-vous la comédie musicale d'improvisation? Chant, danse, jeu, musique et même décor, les 10 artistes de New, la comédie musicale improvisée, créent chaque soir au Grand Point Virgule à Paris une nouvelle histoire avec l'aide du public. Margot Bédé, reportage.
À l'entrée du théâtre, une personne distribue des feuilles de papier. Aussitôt en main, certains spectateurs dégainent leurs stylos, sans doute des habitués. Titre du spectacle et lieu, c'est à nous de les trouver. Céline vient pour la première fois et elle semble inspirée.
Alors en titre de pièce, j'ai mis « Aussi gracieux que Bambi » et j'ai fait commencer l'histoire dans une patinoire éphémère dans un petit village.
Le verdict va tomber. Nous allons assister à salade tomate-oignon dans le casino de Barcelone. Le maître de cérémonie, Florian Bartsch, a encore besoin du public.
Est-ce que vous pouvez me chanter une mélodie qui n'existe pas encore? Juste quelques notes très courtes.
Chlim-poum, tilim-taboum.
Chla-dipoum, talepoudam. Encore une fois, c'est vraiment super. Hein.
Une spectatrice vient de trouver le thème du spectacle auquel nous allons assister. Les 3 musiciens sur scène vont s'approprier cette mélodie et improviser pendant plus d'une heure. Antoine Lefort est le pianiste et directeur artistique.
Musicien dans une comédie musicale, on est au service de la narration. On est au service d'émotions, de personnages, donc la musique est beaucoup plus malléable qu'une chanson pop, par exemple, qui est très cadrée, qui dure 3 minutes, qui a un couplet-refrain, etc. Nous, on peut avoir des dialogues en plein milieu de la chanson. On s'entraîne pour pouvoir jouer tous les styles. En fait, on doit vraiment être complètement polyvalent parce que le public choisit les styles. La dernière fois, on a eu disco grégorien. On a pu avoir Disney, Rai aussi. Donc en fait, on se met complètement en danger pour pouvoir complètement se laisser déborder un peu par notre savoir et le transformer en direct. Et nous-mêmes, on est surpris très souvent.
Bon, enfin bref, la question n'est pas là. Je me demandais, monsieur Martinez, vous n'avez pas d'enfant, enfin vous n'avez pas d'héritier.
Non, pourquoi cette question?
On va entendre la fin de cette scène en chanson. En quel style de musique, s'il vous plaît?
Arrêtés en pleine action, les artistes doivent vite rebondir. Florence Alérac joue dans le spectacle.
La surprise est toujours très grande. Il y a un petit moment de détente où en fait on se fige. Et à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Parce qu'on savait pas trop ce qui se passait. Et là, tout s'arrête tout d'un coup. Et c'est la grande question, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que je ne sais pas vraiment ce que je faisais, j'étais en train d'improviser, et là, on me donne une contrainte. Faut la prendre, de toute façon, faut faire avec, ça repart tout de suite après. Je peux transformer tout le cheminement de la pensée, même si on l'a pas prémédité, etc., ça transforme tout.
Au fond de la scène, sur un écran blanc, le décor se dessine, puis s'efface. Depuis son ordinateur, l'imprographiste Loïc Billot est à l'œuvre. À chaque scène, un nouveau dessin qu'il faut pouvoir terminer à temps.
Au fur et à mesure, en fait, j'ai compris un petit peu la mécanique du spectacle et quand la scène va être plus ou moins courte. Donc quand je ne sais pas si elle va être courte, je fais un dessin plus ou moins rapide. Et puis quand je sais qu'elle va être longue, là, je peux me permettre de faire un dessin plus long. Mais oui, toujours, ça peut arriver d'avoir un moment où j'ai pas le temps de finir. Et c'est pour ça qu'entre chaque scène, je fais un noir avec mon écran et je reviens pour fignoler un petit peu l'illustration que j'ai pas eu le temps de finir.
Théâtre, chant, musique, illustration, le maître de cérémonie Florian Bartsch a créé ce spectacle.
J'avais une idée magnifique sous la douche. Quand j'ai chanté sous la douche, et j'étais en train de danser sous la douche, il y avait donc beaucoup de vapeur qui a créé donc des vitres. Et du coup, j'ai commencé à dessiner en dansant, en chantant. Du coup, l'idée, pourquoi pas un spectacle de comédie musicale dans lequel on chante, on danse et on fait des dessins au même moment.
Est-ce la véritable histoire de New, la comédie musicale improvisée? Nous ne le saurons jamais, elle change tous les soirs.
Reportage de Margot Bédé pour VMDN New, la comédie musicale improvisée. C'est donc au Grand Point Virgule tous les mardis à 20h jusqu'au 5 mars. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Souleyman Bangoura dit Soul Banks. Il viendra nous présenter son nouvel album Yelena, disponible chez Sony Music. Et vous m'en direz des nouvelles.